Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons le récit justement de ce qui est arrivé aux disciples de Jésus, hommes et femmes assemblés. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues de feu leur apparurent. Elles se séparaient les unes des autres et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Et puis ensuite, je voudrais vous lire dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible à l'autre bout, au chapitre 1er, un extrait de la création par Dieu. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon son espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu regarda et il vit que cela était bon. Dieu dit alors, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Le philosophe grec du IIe siècle, Épictète, aurait dit « Commence par te demander quel genre de personne tu veux être, et puis après quoi, exerce-toi à agir selon ce modèle. » Il y aurait donc deux étapes. La première consiste à se donner une visée. Épictète parle alors de « pro hieresis », terme que l'on utilisait à l'époque pour dire le choix d'une profession. Quand on est jeune, même pour Charlie qui a à peine quelques années, on commence déjà à lui demander « qu'est-ce que tu voudras faire plus tard quand tu seras grand ?» Alors c'est un peu énervant pour les enfants, bien sûr, mais même si l'on n'en sait rien, c'est une bonne question à se poser, parce que c'est une part cruciale de notre liberté de choisir ce qu'on aimerait devenir. Alors pour le choix d'un métier, bien sûr, c'est vrai, on peut encore changer au cours de route, comme je l'ai fait d'ailleurs. Mais c'est encore plus important, à mon avis, pour le choix du type de personne que l'on aimerait devenir. Est-ce qu'on aimerait devenir une sorte de requin ou une personne qui pense aux autres? Est-ce qu'on aimerait être une sorte de plante verte qui se laisse vivre tranquillement en profitant de la terre et du ciel, passivement? Ou une personne qui creuse les questions du sens, une question qui cherche à améliorer le monde autour d'elle. Et donc la Bible, particulièrement dans la Bible, les évangiles du Christ, nous propose d'avoir comme visée Dieu, tout simplement, rien de moins. Le Dieu bon, le Dieu libre, le Dieu fidèle et créateur de bonnes choses, le Dieu qui est source de vie et de joie. Alors bien sûr, c'est une sacrée ambition. C'est une ambition sacrée. Le Christ incarne cette visée. Le chrétien n'est pourtant pas une personne parfaite. C'est une personne qui choisit d'avoir cette haute visée, qui regarde le Christ pour devenir un peu plus à l'image de Dieu. Commence par choisir quelle personne tu voudrais être, nous dit donc Épictète. Eh bien, nous aimerions être à l'image de Dieu, comme le Christ l'a été. C'est là-dessus que conclut l'Évangile par la bouche de Pilate, le procureur romain, qui offre Jésus à la foule en colère, disant « Voici l'homme ». Alors on y entend un H majuscule, bien entendu. Voici l'humain véritable, tel que Dieu l'espère depuis toujours. Alors c'est pour nous une visée géniale et belle, inspirante. Choisir de s'inspirer de la figure du Christ, c'est ce que Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, appelle « faire élection ». Comme dans une votation, nous sommes appelés à choisir une personne pour qu'elle nous gouverne. Nous avons à choisir dans notre vie quel type de façon d'être nous choisissons pour que cela règne sur notre devenir, sur notre évolution. C'est à la fois un choix théorique, mais c'est aussi un choix pratique et concret, comme nous le rappelle Épictète. Car si le choix de notre objectif est essentiel, cela demande ensuite de nous exercer à agir concrètement à l'image du modèle que nous avons choisi, sinon nous aurons choisi en vain. C'est vrai que dans ce domaine de l'être, comme pour faire de la musique, il faut d'abord choisir quel instrument on voudra faire, on ne peut pas les jouer tous, et puis on s'exerce au jour le jour. Eh bien, ça marche pareil pour le domaine de l'être. Bien sûr, ce n'est pas facile de nous changer nous-mêmes. Ce n'est donc pas facile de devenir un peu plus encore à l'image de Dieu. Comment faire ? C'est que Dieu n'est pas seulement un modèle pour nous, une visée. Il est aussi une puissance de création que l'on voit depuis la Genèse, depuis l'origine du monde. Et cette puissance de création est à notre service, personnellement. C'est ça qu'on appelle, en fait, l'Esprit-Saint. Une puissance de création qui nous est donnée, qui vient comme en nous, comme une dynamique d'évolution, que nous pouvons mobiliser en nous-mêmes. Et alors, elle travaille pour nous faire évoluer, pour continuer à nous créer. C'est ce que nous fêtons à la Pentecôte, dans toutes les églises chrétiennes, partout dans le monde, depuis 2000 ans. Dans ce récit, l'Esprit est donné, non pas globalement à l'humanité, comme une grande flamme, mais le texte insiste bien pour dire qu'il y a un petit bout de flamme pour chaque personne présente, bien sûr, homme comme femme, les apôtres, les disciples et tous les autres. Alors voilà ce qui nous est donc dit. Ce récit est donné. Est-ce que l'Esprit est donné ? Est-ce que ça fait de nous une personne parfaite aujourd'hui ? Non. L'Esprit, c'est comme un moteur interne qui nous permet d'évoluer et de devenir ainsi un peu plus au jour le jour à l'image de Dieu, ce Dieu bon et créateur, comme le dit le livre de la Genèse. Seulement le récit de Pentecôte, il vous dit que dès aujourd'hui, vous êtes déjà à l'image de Dieu, que cela vous a déjà été donné et que cela se déploie encore. Alors, pour essayer de vous en rendre compte, je vous propose un exercice pratique. Nos quatre catéchumènes vont vous distribuer, allez-y, vont vous distribuer un cadeau de Pentecôte. C'est un petit miroir comme ça, qui ressemble en fait à cadre d'un tableau ancien. Vous pourrez vous regarder dans ce miroir et voir votre visage. Alors il y a une légende, comme dans beaucoup de tableaux, il y a une légende sur le tableau qui dit son auteur et ce que le tableau représente. Alors, vous pouvez vous voir, et la légende, c'est que Dieu vous a créé à son image. Vous êtes un autoportrait de Dieu. Alors, quand on se regarde dans le miroir, on est souvent déçu par notre propre visage, en fait. Eh bien, cela ne devrait pas, car c'est l'image de Dieu que nous voyons dans le miroir. L'image de Dieu, cela nous dit notre infinie bonté. Cela nous dit notre infinie dignité. Cela nous dit que nous sommes une personne sacrée en réalité, comme Dieu seul est sacré. Alors regardez votre visage. Je vous laisse quelques instants pendant que Diego nous joue. Une minute d'orgue. Donc regarder notre visage dans le miroir devrait nous inspirer légitimement de la fierté. En ce visage que je regarde, c'est dans une certaine mesure Dieu que je vois. Sa parole a été faite chair en nous. Qu'est-ce que j'observe dans ce visage qui me regarde en fait dans le miroir? Je vois une tête qui pense, des yeux qui regardent et qui expriment un sentiment, le sentiment de l'instant, de l'amour, de la colère, de la joie, de l'humour, de l'intelligence. J'aperçois, en inclinant un peu, des oreilles qui permettent d'entendre. Je vois en plein milieu un nez pour sentir et pour respirer. Je vois une bouche pour sourire, pour manger, pour déguster. Et pour parler. Chacun de ces éléments, en fait, me parle de Dieu, de sa bonté pour moi, de son action pour moi, pour nous tous. Et ces caractéristiques me disent que je suis bien, en réalité, à l'image de Dieu. Dieu nous écoute, nous dit la Bible. Il ne nous écoute pas seulement, il nous entend, il nous comprend et il nous parle. Ce visage que nous voyons dans le miroir est équipé d'origine pour écouter et pour communiquer. Dans la prière, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Et puis nous écoutons et communiquons aussi avec les autres. Dieu nous regarde et il nous voit. Et il nous voit et il nous aime. Nous sommes une merveille à ses yeux. Et nous ne le savions pas. Nous sommes souvent déçus par nous-mêmes. Pour Dieu, nous sommes en l'état une merveille. Alors en regardant notre visage dans le miroir, nous pouvons méditer sur la façon dont Dieu nous regarde. Et nous pourrions apprendre à nous voir nous-mêmes autrement, en profondeur, avec bienveillance, et découvrir que nous sommes une merveille en réalité. Et puis nous voyons une tête, Dieu a une pensée propre. Il a de bons projets pour le monde et pour nous. Alors en voyant notre tête dans le miroir, nous voyons un organe incroyable. Enfin, nous en voyons que l'enveloppe. Mais à l'intérieur, nous avons un organe absolument incroyable qui nous donne d'avoir non seulement nos propres idées, d'élaborer nos propres projets librement, mais qui a en plus une personnalité. C'est absolument hallucinant. Dans le miroir, nous voyons que nous avons une tête. Alors pour peu que l'on s'en serve, que l'on exerce un peu cet organe qui est à l'intérieur, qui est notre cerveau, ça devient un outil absolument formidable. En voyant notre front dans le miroir, nous voyons que nous avons reçu en cadeau d'avoir cette qualité proprement divine de la pensée et de la personnalité. Et puis nous voyons en plein milieu notre nez, en plein milieu, qui est fait pour inspirer ce souffle qui nous fait vivre. Alors on ne peut pas voir l'air que nous respirons. Pourtant, Si on arrête de respirer, ne serait-ce qu'une minute, on se rend compte que quand même, il y a de l'air qui existe. On ne peut pas voir Dieu, mais nous avons autant besoin d'air que de ce souffle de Dieu qu'on appelle l'Esprit et qui nous est donné à la Pentecôte. C'est ce qui nous permet de vivre, de nous élancer dans la vie d'une belle façon, de faire des projets de création pour un monde plus juste, plus beau, plus humain, plus fraternel, plus inspiré par Dieu. C'est cela que nous rappelle notre nez en plein milieu de notre visage de Dieu. Alors, regardant notre visage, nous voyons en réalité qu'il n'est pas si différent que celui des autres. Alors, bien sûr, chacun sa personnalité. Sur notre visage s'impriment aussi, peu à peu, nos sourires anciens, nos peurs, nos espérances, nos projets, nos lamentations. Il est donc sculpté par notre personnalité. Donc, chacun a son visage, mais en gros, nous avons à peu près quand même les mêmes visages. Nous avons les mêmes yeux, des oreilles, une bouche, une tête. Et puis nous avons cette fragilité du visage, cette vulnérabilité de notre visage ouvert, découvert, exposé, si fragile avec ces orifices qui se développe donc dans notre visage. Le grand philosophe juif Lévinas dit que le visage de l'autre est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu lui-même. En effet, ce visage, dans sa vulnérabilité, il nous dit cette parole à travers l'autre qui me regarde : « Tu ne me tueras pas ». C'est la parole que Dieu a dit à Moïse sur le sommet du mont Sinaï, et donc à travers le visage de l'autre que je regarde, cette parole essentielle résonne à nouveau pour moi. Et puis on peut dire que ce visage, le visage de l'autre et mon visage, est porteur d'une transcendance. Car il y a en chaque personne quelque chose qui nous échappera toujours, et heureusement, en toute personne comme en Dieu, qui dépasse largement tout ce que l'on peut dire, exprimer sur lui. Toute personne est au-delà de sa carte d'identité, de son numéro d'AVS, de ce que l'on peut penser sur cette personne. Au plus profond d'elle est un mystère. La Bible nous met en garde sur le fait de nous forger des idoles à la place du vrai Dieu, du Dieu vivant. Cela vaut pour mon prochain, cela vaut pour moi-même, cela vaut pour Dieu. Nous sommes infiniment plus que nous ne le pensons. Nous sommes une merveille. Ensuite, bien que nous soyons chacune et chacun une image de Dieu, en réalité, bien sûr que nous utilisons seulement plus ou moins bien ces caractéristiques absolument incroyables que nous avons reçues. C'est pourquoi tout visage, le mien comme celui de la personne avec qui nous communiquons, tout visage appelle à la miséricorde. Il n'est pas facile de vivre cette vocation immense qu'il y a d'être porteur de Dieu dans ce monde si complexe. Et puis les relations humaines sont toujours compliquées. Elles sont toujours troublées, tordues par notre peur de l'autre, avec notre visage si vulnérable. C'est pourquoi nous avons tant besoin de l'Esprit de Dieu, de son souffle, et de sa paix qu'il met à l'intérieur de nous-mêmes et que nous recevons, que nous remettons sur le dessus par la prière quotidienne. Oui, Dieu nous donne en abondance son Esprit Saint. Il nous le donne chaque jour un peu plus. Il nous donne cette paix et ce souffle et il nous envoie en mission dans ce monde que Dieu aime. pour faire ce que nous pourrons, à notre idée, selon notre personnalité, selon ce que nous sentirons. Et nous serons dans ce travail avec Dieu. Nous serons aussi en équipe avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Amen.